Chapitre 3 Versets 1 et 2 Citation de l'Écriture. Quel est donc l'avantage du Juif, ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Fin de citation. Premièrement, on peut soulever la question suivante. Y a-t-il un quelconque avantage à avoir une position extérieure? Cette question se pose du fait que l'apôtre vient juste de montrer que la position de l'homme religieux, avec tous ses avantages, ne donne aucun rang particulier devant Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un travail intérieur dans le cœur. D'où la question : quel est l'avantage d'avoir des privilèges religieux extérieurs tels que ceux des Juifs ? Ou quel profit y a-t-il à être circoncis ? C'est-à-dire à être passé par le rite qui introduit dans cette position extérieure? Dans sa réponse, l'apôtre affirme expressément qu'il y a des avantages à une position extérieure. Il dit en effet que l'avantage est grand de toute manière. Le principal avantage est que le Juif a eu les oracles de Dieu. Avoir les Écritures était un grand gain. Alors, comme maintenant. Même si certains n'acceptent pas l'Évangile, c'est un immense avantage d'être dans un pays où la lumière de la parole de Dieu est apportée pour influencer les hommes, même si cela ne touche que leur vie extérieure. Versets 3 et 4 Citation de l'Écriture. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Mais que Dieu soit vrai, et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Fin de citation. La réponse de l'apôtre à la première question soulève une deuxième question. Il a déclaré qu'avoir les oracles de Dieu est un net avantage, mais qu'en est-il si certains ne croient pas? Leur incrédulité rendra-t-elle la parole de Dieu inopérante pour ceux qui ont la foi de Dieu? Ou l'incrédulité de l'homme affectera-t-elle la vérité de ce que Dieu a dit? En réponse à cette question, l'apôtre dit « qu'ainsi n'advienne ». Puis il cite le psaume 51 pour montrer que, quoique les hommes puissent croire ou faire, Dieu sera justifié dans tout ce qu'il dit. Dans ce psaume de repentance, David reconnaît que dans le jugement qu'il a frappé à cause de son grand péché, Dieu a démontré que tout ce qu'il avait dit quant au jugement frappant le pécheur était vrai. Dieu a justifié ses propres paroles dans sa manière d'agir envers David. C'est un avertissement solennel pour tous, tant croyants que non-croyants. Si nous n'apprenons pas dans la présence de Dieu que ce que Dieu dit est vrai au sujet du mal de nos cœurs et des conséquences de péché, il nous faudra l'apprendre en tombant sous le jugement gouvernemental ou sous le jugement éternel dans le cas des non-croyants. Ces chapitres placent devant nous la vérité solennelle de ce qu'il en est de nous. Pour nous, croyants, il est bon de laisser la parole nous sonder personnellement et d'apprendre ainsi que ce que Dieu dit de nous est vrai, plutôt que d'avoir à apprendre la vérité par une chute terrible comme celle de David. D'une manière ou d'une autre, nous avons à apprendre que ce que Dieu dit au sujet de la chair est vrai, et que tout ce que l'homme peut dire en sens contraire est mensonge, qui que soit l'homme qui le dit. Qu'il soit un grand génie ou un grand philosophe, c'est un menteur s'il contredit ce que Dieu a dit du péché et de la chair. Versets 5 à 8 Citation de l'Écriture. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère? Je parle selon l'homme. Qu'ainsi n'advienne, puisqu'alors comment Dieu jugera-t-il le monde? Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur, et non comme nous sommes calomnieusement accusés et que quelques-uns prétendent que nous disons « Faisons du mal afin qu'arrive le bien », desquels le jugement est juste. Fin de citation. Nous avons vu que l'injustice de David est devenue l'occasion de montrer que Dieu avait raison dans tout ce qu'il avait dit. Ainsi, notre injustice constate la justice de Dieu. Cela soulève une troisième question pour l'esprit naturel. Comment Dieu peut-il punir pour avoir fait quelque chose qui tourne à la gloire de Dieu, même si c'est mal? En parlant ainsi, l'apôtre prend soin de dire qu'il ne fait que dire tout haut ce que l'homme pense tout bas. Il sait bien, quant à lui, que l'argument est faux, car il y répond immédiatement, qu'ainsi n'advienne. Un tel argument, s'il était vrai, rendrait impossible tout jugement du monde de la part de Dieu. L'homme tentera alors d'argumenter en disant que la vérité de Dieu s'est trouvée renforcée par son refus, et que ce refus a dès lors contribué à la gloire de Dieu. Pourquoi est-il alors jugé comme pécheur au lieu d'être félicité d'avoir fait du mal afin qu'arrive le bien? On prétendait apparemment et par calomnie que c'était là le résultat de l'enseignement chrétien selon lequel, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La réponse de Paul à ce genre d'argument est brève. Il dit simplement que les gens qui le tiennent méritent le jugement, desquels le jugement est juste. Le fait que le péché de l'homme tourne à la gloire de Dieu ne décharge pas l'homme de sa responsabilité ni de l'exempte du jugement de Dieu. Dans les versets 9 à 20, nous allons voir que tout le monde est coupable. L'apôtre a démontré que les païens, les moralistes et l'homme religieux n'ont aucune justice pour Dieu. Pour résumer maintenant cette section de l'Épître qui prouve la ruine complète de l'homme, il cite les Écritures qui montrent clairement que tout le monde est coupable devant Dieu. Versets 9 à 12, citation du psaume 14 ou 53. Citation de l'Écriture. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. » Fin de citation. Il vient de montrer que la position de privilège extérieur est un avantage certain pour l'homme religieux. Faut-il en déduire que le juif est moralement meilleur que le non-juif? L'apôtre demande « Sommes-nous, nous les juifs, plus excellents que les non-juifs ?» En réponse, l'apôtre affirme d'abord qu'il a déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous le péché. Il poursuit ensuite en montrant la ruine complète de tous les hommes, en citant sept passages de l'Ancien Testament qui donne une description solennelle de l'homme selon la chair. Ces écritures s'appliquent à la fois aux juifs et aux non-juifs, prouvant que tous sont sous le péché et que les juifs ne sont pas meilleurs que les non-juifs. La première citation est tirée des psaumes 14 ou 53, où elle se rattache à l'affirmation selon laquelle l'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Psaume 14, verset 2. Les déclarations qui suivent donnent le résultat de cette recherche selon le regard pénétrant de Dieu. La vérité présentée n'est donc pas une description de la façon dont nous apparaissons les uns aux autres, mais de celle dont nous paraissons devant Dieu, comme enfants d'Adam déchus, comme étant dans la chair. Dans les citations tirées de ce psaume, Dieu nous dépouille de tout ce dont nous pourrions nous vanter comme hommes naturels, c'est-à-dire des choses par lesquelles nous cherchons naturellement à nous justifier devant Dieu. Premièrement, Dieu nous dépouille de notre propre justice. Il est écrit « Il n'y a point de juste, non pas même un seul ». Il nous est difficile de croire que toutes nos justices sont comme des vêtements souillés et qu'il n'y a pas un seul juste aux yeux de Dieu. Nous plaiderions sûrement qu'il y en a quelques-uns, mais Dieu dit « aucun ». Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'honnêtes gens parmi les hommes, mais qu'aucun de nous n'a donné à Dieu ce à quoi il avait droit. Ce serait juste que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais personne ne l'a fait. Personne n'est donc juste devant Dieu. Deuxièmement, il n'y a personne qui ait de l'intelligence. L'intelligence de l'homme est très grande, mais avec toute sa connaissance, il ne comprend pas Dieu. Il est notoire que les gens les plus intellectuels sont généralement les plus ignorants de Dieu. Ce sont les chefs de ce monde censés être intelligents qui ont crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, verset 8. La vérité est que ni la sagesse naturelle, ni la raison ne nous donneront jamais aucune vraie connaissance de Dieu, ni de nos propres cœurs. Troisièmement, il n'y a personne qui recherche Dieu. La religion de l'homme naturel a l'apparence de chercher Dieu. Néanmoins, une religion d'œuvre, de moralité stérile et d'observance rituelle, loin de rechercher Dieu, est en réalité un effort pour faire taire la conscience et tenir Dieu à distance. L'homme déchu peut être intensément religieux, mais il ne recherche pas réellement Dieu. Voir Caïn. Quatrièmement, ils se sont tous détournés. Ceci décrit la propre volonté de la chair qui abandonne délibérément la voie de Dieu et choisit sa propre voie. Ce n'est pas simplement que nous soyons en dehors du chemin, mais l'homme naturel tourne délibérément le dos à Dieu et prend un chemin de son propre choix. Le fils prodigue a délibérément quitté la maison de son père pour suivre son propre chemin. Cinquièmement, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Non seulement la chair choisit son propre chemin, mais les hommes se tirent l'un l'autre vers le bas. Les hommes cherchent à oublier Dieu dans le domaine social. Si la propre volonté du fils prodigue l'a amené à choisir son propre chemin et à s'en aller dans un pays éloigné, une fois arrivé là, il s'est jeté à corps perdu dans le train de la société et a tout fait pour oublier son père en compagnie d'une foule malfaisante. Sixièmement, il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. L'homme peut faire un grand nombre d'actions philanthropiques pour le bénéfice de ses semblables, mais le motif en est le moi, ou l'homme, non pas Dieu. Si le mobile n'est pas bon, rien ne rendra un acte bon aux yeux de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu dépouille la chair de toutes les couvertures par lesquelles l'homme cherche à cacher son véritable état à la fois à lui-même, à ses semblables et à Dieu. La propre justice, les efforts intellectuels, la chair religieuse, la volonté de la chair, les efforts et les bienfaits sociaux ne sont que des vêtements de feuilles de figuier par lesquels les hommes cherchent à cacher leur nudité et à prétendre être devant les autres ce qu'ils ne sont pas. Dépouillé de ces feuilles de figuier, l'homme déchu se trouve manifesté sous son vrai caractère tel que Dieu le voit. Dans le passage de l'Écriture qui suit, le gosier, la langue, les lèvres, la bouche et les pieds servent à montrer les diverses qualités mauvaises de la chair. Versets 13 à 18. D'autres citations. Citation de l'Écriture. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Fin de citation. La seconde citation est tirée du psaume 5, verset 9, où nous lisons « C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, ils ont frauduleusement usé de leur langue. » Le gosier décrit la corruption totale de la chair, c'est un sépulcre ouvert. Cette corruption se manifeste par des lèvres menteuses. La troisième citation est tirée du psaume 140, verset 3. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. La corruption de la chair conduit au mensonge, et le mensonge conduit au poison de la calomnie, car la chair qui peut vous mentir en face vous calomniera par derrière. La quatrième citation est tirée du psaume 10, verset 7. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Le mensonge mène à la calomnie, et la calomnie conduit à maudire, car l'homme calomnié ripostera en maudissant avec amertume. La cinquième citation est tirée de Proverbe 1, verset 16, identique à Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. De la malédiction et de l'amertume, Il n'y a qu'un pas vers le meurtre. La sixième citation est tirée d'Ésaïe 59, versets 7 et 8. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Le meurtre laisse la ruine et la misère dans son sillage. La septième citation est tirée du psaume 36, verset 1. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. La ruine et la misère dérobent la paix aux hommes. Quand la paix est partie, les hommes peuvent tout craindre l'un de l'autre, mais il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Récapitulé des versets 9 à 18. Ainsi, l'homme déchu, après avoir d'abord été dépouillé de toute couverture, est manifesté comme corrompu, menteur, calomniateur, maudisseur et meurtrier, laissant ruine et misère à sa suite, et suivant un chemin où il n'y a ni paix ni crainte de Dieu. Voilà le tableau solennel de l'homme déchu aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que chacun de ses traits se retrouve chez tous, car beaucoup de barrières s'opposent à la manifestation de la chair dans la plénitude du mal. Dans le cours ordinaire de la vie, il y a des contraintes d'éducation, de civilisation et des formes extérieures de religion qui empêchent la chair de se montrer dans toute sa méchanceté. Toutefois, quand cela s'y prête, la chair fait sauter tous les freins et se manifeste dans toute sa laideur. La croix, qui est la plus grande expression de l'amour de Dieu, a été la plus grande occasion pour l'homme de manifester le mal de son cœur. Nous y voyons la corruption totale de la chair. Pilate parle de Christ comme d'un juste, il reconnaît n'avoir trouvé aucune faute en lui, il admet qu'il n'a rien fait qui soit digne de mort, et pourtant il le livre délibérément pour être crucifié. Peut-on trouver une plus grande expression de la corruption de la chair? Notons ensuite la langue menteuse. La corruption de la chair chez Judas se traduit dans la langue qui use de tromperie. Il a commis et prononcé un mensonge quand, lors de sa trahison, il a dit « Je te salue, Rabbi !» et il le baisa avec empressement. Matthieu 26, verset 49. Puis on voit le venin d'aspic chez les Juifs quand, avec de faux témoins et de fausses paroles, il calomnie le Seigneur et cherche à insuffler le venin dans l'esprit de Pilate contre lui, disant « Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation et défendant de donner le tribut à César. » Luc 23, verset 2. De la calomnie, il passe à la malédiction amère, car nous lisons « Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence. » Luc 23, verset 18. Il n'y a ensuite qu'un pas de la colère au meurtre, car ils disent « Qu'il soit crucifié. » La ruine et la misère ont suivi dans ce sillage du plus terrible de tous les meurtres, selon ce qu'avaient prédit les propres paroles du Seigneur. Voici, des jours viennent dans lesquels on dira « Bienheureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. » Luc 23, versets 29 et 30. En outre, le meurtre qui a amené la ruine a aussi enlevé la paix à l'homme, car à la croix nous lisons « Toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient frappant leur poitrine. » Luc 23, verset 48. Il n'y avait pas de paix dans ces poitrines. Tout cela fut fait sans aucune crainte de Dieu, car tous dirent « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, verset 25. Voilà donc la vérité solennelle concernant l'homme déchu, sa ruine et sa méchanceté absolue, consignées dans l'Écriture et démontrées à la croix, s'avèrent complètes. Il est bon que nous justifions Dieu dans ses paroles, non seulement en admettant la vérité de ce qu'il a dit sur les hommes en général, mais que c'est aussi la vérité quant à chacun de nous individuellement, et que c'est bien là le véritable caractère de la chair, même si elle a été beaucoup tenue en bride par des circonstances particulières. Verset 19. Citation de l'Écriture. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Fin de citation. Voilà donc le témoignage de la loi auquel ni juif ni non-juif ne peut échapper. Le juif, qui détient une position extérieurement avantageuse en ayant la loi, est entièrement condamné par elle, car il est évident que la loi parle à ceux qui sont sous la loi. Le juif, par conséquent, n'a aucune supériorité morale sur le non-juif. La conclusion solennelle de l'ensemble de l'acte d'accusation est que juifs et non-juifs sont au même niveau devant Dieu. Toute bouche est fermée et tout le monde est sous le jugement de Dieu. Verset 20. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Fin de citation. Or, la loi qui place tout le monde sous le jugement de Dieu n'offre à l'homme aucune possibilité de se soustraire au jugement par des efforts de sa part. Nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. La loi en effet convainc de péché, car par la loi est la connaissance du péché. Mais elle ne peut pas ôter les péchés, ni délivrer de la puissance du péché. La loi est comme un fil à plomb montrant les irrégularités d'un mur. Il serait aussi insensé de penser qu'un mur tordu puisse être redressé en tenant un fil à plomb à côté de lui, que de penser qu'un pécheur coupable puisse être justifié par la loi. Ainsi, la loi nous convainc non seulement que nous sommes pécheurs devant Dieu, mais aussi que nous sommes des pécheurs sans ressources. Notre ruine est totale et irrémédiable pour ce qui nous concerne. Non seulement l'homme est une créature déchue, chassée du paradis, mais il ne peut pas trouver le chemin du retour. La loi qui a été donnée pour la vie, si un homme la garde, est devenue un ministère de mort et de condamnation. Les versets 21 à 31, nous avons la justice de Dieu dans son pardon. Dans la section précédente de l'Épître, du verset 18 du chapitre 1 au verset 20 du chapitre 3, l'apôtre a examiné l'état du monde devant Dieu. Le résultat est, comme l'Écriture le prouve, que toute bouche est fermée et que tout le monde est sous le jugement de Dieu. De toute évidence, alors, tout en est fini avec l'homme de son côté. Pour que quelqu'un soit sauvé du jugement, tout doit dépendre de Dieu. Du coup, il y a ici un tournant dans l'Épître et l'on passe de l'examen de ce qu'est l'homme devant Dieu à l'initiation de ce que Dieu est pour l'homme coupable. Ce qui est devant nos âmes n'est plus l'homme dans sa ruine, mais Dieu dans sa gloire. Verset 21. Citation de l'Écriture. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Fin de citation. Cependant, si Dieu agit en faveur de l'homme, ce doit être en justice. Aussi l'apôtre reprend ici le grand sujet de la justice de Dieu déjà évoqué dans l'introduction, chapitre 1, verset 17. La justice de Dieu est cette qualité en Dieu qui le conduit à toujours agir selon ses droits, ou en d'autres termes, à agir à l'égard des autres en parfaite cohérence avec lui-même. Il est naturel qu'un pécheur condamné redoute la justice de Dieu. Il réfléchit, se disant que si un Dieu saint s'occupe avec justice d'un pécheur coupable, cela ne peut qu'aboutir à son jugement à cause de ses péchés. Il ne vient jamais à l'idée du pécheur que Dieu puisse pardonner ses péchés avec justice. Cependant, lorsque nous sommes instruits dans la justice de Dieu, nous découvrons que la qualité de Dieu que nous estimons être en notre défaveur est justement celle qui, plus que tout autre, est en notre faveur comme pécheur, et que c'est elle qui est le fondement solide de notre paix comme croyant. Cette justice de Dieu se manifeste dans l'Évangile entièrement en dehors de la loi. La loi exigeait de la part de l'homme une justice qu'il était incapable de produire. L'Évangile déclare la justice de Dieu envers l'homme sans rien lui demander. La loi rendait témoignage de la justice de Dieu. Les sacrifices sous la loi et les oracles des prophètes annoncer la manière dont Dieu peut maintenant bénir en justice le pécheur qui croit. Mais la loi et les prophètes n'étaient que les témoins des bienfaits à venir. La justice de Dieu est maintenant manifestée. Désormais, il est manifeste que c'est en justice que Dieu proclame le pardon des péchés aux pécheurs et qu'il justifie les impies qui croient en Jésus. Versets 22 et 23. Citation de l'Écriture. « La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Fin de citation. Cette justice de Dieu est envers nous en bénédiction, non pas contre nous en jugement, selon que le cœur naturel attendrait. En outre, elle est envers tous, en direction de tous. Elle ne se limite pas aux Juifs, elle n'est pas non plus simplement envers les croyants ou envers les élus, mais elle est envers tous. Cependant, seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ou de Jésus-Christ, reçoivent la bénédiction que la justice de Dieu apporte. Si donc la justice de Dieu est envers tous, elle est seulement sur tous ceux qui croient. La justice de Dieu ne prend effet ou n'agit que sur ceux-ci. Dieu lui-même, indépendamment de nos expériences, agit avec justice en justifiant celui qui croit de tous les sujets d'accusation. Quelle est donc cette foi en Jésus-Christ, ou de Jésus-Christ, ou ce croire en Jésus-Christ dont parle ce verset? Dieu nous présente Christ comme une personne vivante, comme un objet pour la foi des hommes. Comme quelqu'un l'a dit, Jésus-Christ est une réalité divine, et la foi en Jésus-Christ est simplement qu'il est devenu une réalité pour le cœur du croyant. Dans l'Évangile, Christ est présenté dans toute la gloire de sa personne, sa dignité morale, son adéquation à la condition du pécheur, sa disponibilité pour tous et son accessibilité à toute âme dans le besoin. Il est présenté en rapport avec la gloire de son œuvre comme mourant sur la croix, s'offrant lui-même à Dieu sans tache. Hébreux 9, verset 14. Il est présenté comme ressuscité, monté au ciel et dans la gloire de Dieu, accepté par Dieu à son entière satisfaction. Pour celui qui croit, Jésus, une personne vivante dans la gloire, est tout et a fait tout le nécessaire pour satisfaire la nature sainte de Dieu, afin que Dieu puisse proclamer avec justice le pardon envers tous et déclarer que celui qui croit est justifié. Ainsi, l'apôtre prêchait que, par lui, vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Acte 13, versets 38 et 39. Si donc la proclamation du pardon se propage en justice vers tous, c'est parce que tous en ont besoin. Quelles que soient les différences pouvant exister entre les hommes, il n'y en a aucune sur le fait que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Verset 24. Citation de l'Écriture. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Fin de citation. Si tous ont failli, c'est ceux qui croient qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il a été souligné que le mot traduit par « gratuitement » est traduit en Jean 15, verset 25 par « sans cause ». Les hommes ont haï Christ sans cause quant à lui. Et Dieu justifie celui qui croit en Jésus sans cause quant à ce qui concerne le croyant. C'est à la fois un acte accompli en cohérence absolue avec la nature de Dieu et un acte de pure grâce envers le croyant. Le croyant est justifié justement et gratuitement. Être justifié signifie que le croyant est complètement disculpé de toute accusation devant Dieu. Et étant disculpé par Dieu lui-même, il en résulte que Dieu ne soulevera plus jamais aucune question au sujet des péchés du croyant. Si Dieu a été juste en justifiant le croyant de ses péchés, il s'ensuit que Dieu ne pourrait pas en justice ressoulever la question de ses péchés. La justice même qui s'est occupée des péchés du croyant empêche que la question de ses péchés soit de nouveau soulevée. Si en revanche Dieu est capable de justifier le croyant en agissant à la fois en justice et en grâce, il faut qu'il y ait une base adéquate pour le faire. C'est ce qui est placé maintenant devant nous. C'est par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. La rédemption est l'acte qui, par le paiement d'un prix, libère le pécheur de toutes les dettes sous lesquelles il croule. La rédemption fait beaucoup plus que de nous libérer de nos péchés. Elle comprend aussi la délivrance du corps, de la mort et de la maladie, ce qui implique un corps de gloire comme celui de Christ. La rédemption, dans sa plénitude, libère de la culpabilité, du jugement, de la mort et de la puissance de l'ennemi, et elle nous ramène à Dieu, en gloire, avec Christ et comme Christ. Dans cette gloire, lorsque l'œuvre de la rédemption sera complète, les multitudes assemblées diront à Christ « Tu es digne, car tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. » Apocalypse 5, verset 9. La rédemption est introduite dans ce passage pour montrer que la justification fait partie de cette grande œuvre de la rédemption qui nous placera finalement avec Christ et comme Christ dans la gloire. La justification est incluse dans la rédemption, mais la rédemption va bien au-delà de la justification. La rédemption libère le croyant de la moindre chose fournissant à Satan un motif de réclamation contre nous ou une emprise sur nous. Les Israélites ont été non seulement mis à l'abri de l'ange exterminateur par le sang sur les poteaux des portes en Égypte, mais ils ont aussi été sortis d'Égypte par le passage de la mer Rouge et donc entièrement délivrés de la puissance du Pharaon. La justification est la première partie de cette grande rédemption. En tant que croyants, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes justifiés. Nous sommes libérés de tout droit que Satan peut avoir contre nous en raison de nos péchés. Cette rédemption est dans le Christ Jésus. Notre justification est montrée en lui. Nous avons le privilège de nous voir disculpés de toute accusation, comme lui est innocent de tout. Mais il y a plus à voir. Tout ce que nous serons, comme résultat de la rédemption dans sa plénitude, nous le voyons déployé dans le Christ Jésus, dans la gloire. Versets 25 et 26. Citation de l'Écriture. Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Fin de citation. En outre, si Dieu rachète son peuple, il est évident que lui a le droit de rachat, ou rédemption. Satan a été autorisé à entrer dans le jardin, et l'homme est tombé des mains de Dieu dans celles du diable. Cependant, Dieu n'a jamais renoncé à son droit souverain de racheter l'homme de la puissance du diable. Néanmoins, le droit de rachat ne peut être exercé qu'avec le paiement d'un prix. Pour la paix de nos âmes, Dieu a clairement annoncé la base sur laquelle il exerce son droit de rachat. Ainsi, nos yeux sont dirigés sur le Christ Jésus et sur son œuvre, lui que Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Il est bon de bien tenir compte de cette grande déclaration, car elle présente la mort de Christ dans toute son efficacité immuable aux yeux de Dieu, comme étant la base sûre de notre justification et de notre rédemption. C'est la grande vérité centrale du chapitre, qui est la base de toute bénédiction. Trois passages de l'Ancien Testament nous donnent les vérités principales concernant le propitiatoire. Premièrement, Exode 25, verset 17, nous dit que le propitiatoire était d'or pur. Cela nous parle de la gloire de la personne de Christ. C'est une personne divine, Dieu manifesté en chair. Deuxièmement, Exode 26, verset 34, nous dit que le propitiatoire était sur l'arche, dans le lieu très saint. Le lieu très saint était une image du ciel même. Hébreux 9, verset 24. Il parle du lieu où Christ est aujourd'hui dans la présence de Dieu. Troisièmement, Lévitique 6, versets 14 et 15, nous dit que le sang du sacrifice était porté à l'intérieur du voile, dans le lieu très saint, et était aspergé sur le propitiatoire. Cela témoigne non seulement de l'œuvre de Christ, mais de l'acceptation de cette œuvre par Dieu. Ainsi, selon ces trois passages, le propitiatoire présente devant nous la gloire de la personne de Christ, la gloire du lieu où il se trouve, et la gloire de l'œuvre qu'il a accomplie. Nous apprenons qui il est, où il est, et ce qu'il a fait pour la satisfaction de Dieu. Ainsi, le Christ Jésus, présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, signifie que la foi voit que Christ est toujours devant Dieu dans la gloire de sa personne et dans la valeur précieuse de son œuvre. Aucune créature ne connaîtra jamais la gloire infinie de sa personne ou la valeur infinie de son sang, mais la foi se repose sur l'appréciation que Dieu fait de sa personne et de son œuvre. La base de toute paix dans l'âme est de savoir que Christ est toujours devant Dieu, dans la gloire de sa personne et l'efficacité de son œuvre, et qu'il est pleinement accepté par Dieu. La foi ne regarde pas à l'intérieur d'elle-même pour essayer de trouver quelque repos dans notre appréciation de Christ et de son œuvre. La foi regarde à l'extérieur, vers Christ dans la gloire, et se repose sur l'appréciation que Dieu a de sa valeur et de son sang précieux. Pour avoir le vrai repos et la paix, nous devons nous reposer sur quelque chose que le diable ne peut pas remettre en cause et qui est donc en dehors de nous-mêmes et de nos sentiments versatiles et de nos expériences fluctuantes. Ce lieu de repos pour l'âme ne se trouve qu'en Christ dans la gloire et dans la satisfaction éternelle de Dieu quant à son sang précieux. On a dit à juste titre, la foi en l'œuvre de Christ n'est pas que nous l'acceptons, si heureux que cela soit, mais que nous croyons que Dieu l'a accepté. Citation de J.N. Darby. Quand la foi voit l'acceptation du sang par Dieu, elle voit clairement combien Dieu a été juste de supporter les saints de l'Ancien Testament quand ils péchaient. C'est sa patience qu'on voyait à l'époque. Sa justice dans la patience n'est révélée que maintenant. C'est aussi maintenant que Dieu est vu comme étant juste quand il justifie celui qui croit en Jésus. Ce n'est pas que Dieu soit juste en dépit de ce qu'il justifie celui qui croit en Jésus, mais Dieu est juste dans le fait qu'il justifie. Dieu justifie en justice. Ainsi, sur la base du sang précieux de Christ, qui est toujours devant Dieu, dans toute sa valeur, la justice de Dieu est envers tous, proclamant à tous le pardon des péchés, et la justice de Dieu prend effet sur tous ceux qui croient en les déchargeant de tous leurs péchés. Versets 27 et 28. Citation de l'Écriture. Où donc est la vanterie ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Celle des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. Fin de citation. Toute vanterie de notre part est exclue. Si notre bénédiction dépend entièrement de l'œuvre d'autrui, dont nous avons entendu et reçu le récit par la foi, il est évident que nous n'avons rien de quoi nous vanter, comme si nous avions acquis la bénédiction par nos œuvres. C'est pourquoi, avec l'apôtre, nous arrivons à la conclusion que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. Versets 29 et 30. Citation de l'Écriture. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des nations ? Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Fin de citation. En outre, il est clair que la justification ne se limite pas aux Juifs, étant donné qu'il y a un seul Dieu qui justifie à la fois le juif circoncis sur le principe de la foi et le non-juif incirconcis par la foi, il est évident que Dieu agit envers tous en justice et en grâce. Verset 31. Citation de l'Écriture. Annulons-nous donc la loi par la foi ? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. Fin de citation. La justification par la foi, qui exclut la loi comme moyen de bénédiction, annule-t-elle la loi ? Au contraire, la justification du croyant sur la base du sang précieux établit la loi. Le véritable objectif pour lequel la loi avait été donnée était de convaincre les hommes de péché. Et, à cet effet, la loi reste efficace. Dans ce chapitre, l'apôtre s'est servi de la loi pour convaincre tout le monde de sa culpabilité, et ainsi il a établi la vérité de la loi.